Vous écoutez, on lit pour vous.
Votre urine contient-elle des pesticides agricoles? Un texte d'Ariane Kroll, paru le 9 mars 2026 dans la presse. Sainte-Clotilde. Si vous vivez à proximité d'un champ, dans quelle mesure êtes-vous touché par les pesticides qui y sont appliqués? Pour y voir clair, la chercheuse Maryse Bouchard et son équipe ont recruté près de 400 résidents de 4 villages de la Montérégie. Incursion dans la plus grande recherche du genre jamais réalisée au Canada. C'est jour de cueillette à Sainte-Clotilde. Sur son comptoir de cuisine, Nathalie Fortin pose ses échantillons d'urine et de poussière tout juste sortis du congélateur avec des questionnaires alimentaires précis au verre d'eau près. Le stagiaire de recherche, Kyriam Ankou, vérifie l'heure à laquelle l'urine a été prélevée et repart en plaçant les échantillons sur de la glace sèche. Est-ce que mon sol est contaminé? Est-ce que ma nappe phréatique est contaminée? Est-ce que l'air que je respire est plein de pesticides? Ça m'intrigue beaucoup, 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 indique Mme Fortin. Lorsqu'elle a trouvé sa maison à Sainte-Clotilde, il y a une vingtaine d'années, dit-elle, elle avait conscience qu'il y avait des champs et des applications de pesticides. Mais elle pense que son désir de rester à la campagne était plus fort. Des tracteurs en train d'appliquer des produits dans les champs lui ont rappelé la réalité agricole des environs. On ne sent pas nécessairement l'odeur quand on n'est pas familier avec ça, mais il y a des odeurs vraiment spécifiques à certains pesticides, dit celle qui a étudié en horticulture ornementale. Jusqu'à quel point l'épandage de ces pesticides affecte-t-il ma nappe phréatique et mon environnement? Ça commençait à rouler dans ma tête, confie Nathalie Fortin. Elle n'a donc pas hésité à s'inscrire, avec son conjoint, à l'étude EPURA, E-P-U-R-A, exposition aux pesticides utilisés en région agricole. En tout, 386 résidents de Sainte-Clotilde, Saint-Rémy, Saint-Isidore et Saint-Michel participent à cette recherche. TDAH, QI et autres inquiétudes. Dans un sous-sol de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, à Laval, Maryse Bouchard enfile un gant isolant pour manipuler un flacon d'urine. À moins 80 Celsius, mieux vaut protéger ses mains. Les congélateurs voisins abritent des échantillons de terre, de poussière et d'eau. C'est vraiment très précieux. Ça vaut des centaines de milliers de dollars ce qui a été investi pour collecter ces échantillons, signale Mme Bouchard, professeur agrégé à l'unité d'épidémiologie et biostatistique de l'INRS. EPURA, dont elle est la chercheuse principale, est la plus vaste étude terrain sur l'exposition du voisinage aux pesticides agricoles jamais réalisée au pays. Le projet a obtenu près de 700 000 $ des instituts de recherche en santé du Canada. Il inclut des chercheurs de plusieurs universités. Spécialiste de la santé environnementale, Mme Bouchard s'intéresse depuis longtemps aux impacts des pesticides. En 2010, elle a montré que le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, était plus fréquent chez de jeunes Américains dont l'urine présentait davantage de traces de pesticides organophosphorés. Son étude a été reprise dans de grands médias du monde entier. L'année suivante, elle a démontré que le quotient intellectuel de petits Californiens de 7 ans, dont la mère avait été plus exposée à des pesticides organophosphorés durant la grossesse, était plus faible, de 7 points en moyenne. La revue Environmental Health Perspective lui a décerné le prix d'article de l'année. J'avais vraiment le goût de continuer à explorer cette question ici au Québec. L'étude montérégienne ne porte pas sur des problèmes de santé particuliers, mais sur le fait d'être exposé à des pesticides. J'ai décidé de me concentrer sur la manière dont l'exposition arrive, de façon à savoir comment on peut la diminuer, indique Mme Bouchard. Plusieurs des citoyens venus aux rencontres d'information avaient toutefois des préoccupations bien précises. Les gens qui ont des puits étaient inquiets pour leur eau. Des personnes dont le terrain donne sur un champ étaient très anxieux, a constaté la chercheuse. Le cancer, la maladie de Parkinson, les maladies neurologiques, la démence, faisaient aussi partie des peurs. Trouver des alliés. Le secteur maraîcher ayant la plus grande intensité d'utilisation de pesticides, en quantité et en diversité, l'étude Épura a choisi des villages où toutes les résidences sont à moins de 1,5 km d'un champ de culture maraîchère. Restait à recruter des participants. Dans ces communautés où plusieurs vivent de l'agriculture ou ont des producteurs agricoles pour voisins, on a voulu s'adjoindre des alliés parce qu'on se doutait que les pesticides sont un sujet délicat, explique Mme Bouchard. L'équipe a obtenu l'appui officiel de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, formé des comités consultatifs locaux et présenté le projet aux conseils municipaux. Trois d'entre eux ont appuyé Épura et incité leur population à y participer. Les citoyens qui ont levé la main ont plusieurs devoirs à faire. À cette reprise, quatre fois en été et trois en hiver, ils doivent noter tout ce qu'ils mangent et boivent dans une journée, conserver un flacon de leur première urine du lendemain, prélever de la poussière sur leur plancher et entreposer le tout au congélateur. Les chercheurs ont aussi pris de l'eau de leur robinet, de la terre dans leur cour et de la poussière en hauteur dans leur maison. Tous ces échantillons seront testés à l'Université de Sherbrooke, au laboratoire du professeur Pedro Alejandro Segura, pour 18 fongicides, 19 herbicides et 14 insecticides. Détecter les pesticides dans l'urine et l'environnement des personnes vivant près d'une culture maraîchère permettra de voir dans quelle mesure elles sont plus exposées à ces substances et de quelle façon. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs choses à mettre en relation. Est-ce que la dose vient de l'eau ou de l'alimentation? Est-ce la présence de pesticides dans leur maison? Illustre Mme Bouchard. Par exemple, si les analyses détectent moins de pesticides chez les gens qui se déchaussent toujours avant d'entrer chez eux, l'étude pourrait suggérer des moyens simples pour diminuer l'exposition. À Sainte-Clotilde, on a dit « OK, on va embarquer et on va faire partie de la solution », s'enthousiasme le maire Guy-Julien Méné. Son village a beau être zoné agricole à 98 %, le développement va bon train sur les 2 % restants. La population a doublé depuis 15 ans à près de 3 300 habitants. En campagne électorale, j'ai fait 900 portes et pour au moins 90 %, l'environnement, c'est super important, témoigne M. Méné. Je suis optimiste, il y a beaucoup de travail à faire, mais au moins la population est consciente de ce qui se passe. Les participants à l'étude Épura prélèveront leurs derniers échantillons ce mois-ci. Avec les délais nécessaires pour les analyses de laboratoire et les analyses statistiques, les premiers résultats devraient être publiés en 2028. C'était « Votre urine contient-elle des pesticides agricoles? » Un texte d'Ariane Kroll, paru le 9 mars 2026 dans la presse.
Un avion d'Air Canada percute un véhicule d'urgence à New York. Les deux pilotes tués. Un texte de Aaron Souza, Nick Murray, Dean Bennett, Mathieu Paquette et Stéphane Blais, paru le 23 mars 2026 dans la presse canadienne Le Nouvelliste. Un avion d'Air Canada est immobilisé sur la piste de l'aéroport LaGuardia le lundi 23 mars 2026 après avoir percuté un véhicule de secours de l'autorité portuaire à son atterrissage à New York. Ryan Murphy, Associated Press. Peu avant minuit, alors qu'il atterrissait, l'avion a percuté un camion de pompiers de l'administration portuaire de New York, New Jersey, qui traversait la piste pour intervenir sur un autre incident. Le pilote a freiné brusquement et il nous a sauvé la vie, a indiqué Clément Lelièvre, un Français qui réside à New York et qui était sur le vol lors de l'accident, en soulignant les réflexes du pilote pour ralentir l'appareil avant la collision. Alors que l'avion freinait, le devant de l'avion s'est fracassé contre le camion de pompiers et le devant de l'avion s'est détruit, a expliqué M. Lelièvre à la presse canadienne, en précisant que le vol s'était très bien passé jusqu'au moment où l'avion a touché le sol. Les voyageurs étaient tous un peu choqués par ce qui s'est passé. On a dû ouvrir les portes sur les ailes et aider les gens à sortir, a poursuivi M. Lelièvre, précisant que les passagers dans l'appareil se sont beaucoup entraidés. Clément Lelièvre s'est blessé légèrement au genou et à la tête, comme plusieurs passagers de l'appareil de Jazz Aviation, un transporteur régional opérant sous le nom d'Air Canada Express. La plupart se sont blessés à la tête parce qu'ils ont tous tapé le siège avant, donc ils avaient des saignements ou des commotions, ce genre de choses, a raconté Clément Lelièvre. Deux morts et des blessés graves. Lors d'une conférence de presse tenue tôt lundi, la directrice générale de l'administration portuaire, Catherine Garcia, a indiqué que toutes les personnes qui se trouvaient dans l'avion, 72 passagers et 4 membres d'équipage, avaient été retrouvées. Malheureusement, le décès des deux pilotes a été confirmé, a déclaré Mme Garcia devant les journalistes, précisant que le pilote et le premier officier étaient établis au Canada. Le vol était parti de l'aéroport Montréal-Trudeau. 41 personnes ont été transportées à l'hôpital, 39 passagers et membres d'équipage, ainsi que 2 travailleurs qui se trouvaient dans le camion de pompiers. 9 personnes étaient toujours hospitalisées au moment du point de presse, dont certaines dans un état critique. L'un des passagers, Christopher Pal, professeur à Polytechnique Montréal, a perdu ses lunettes et s'est cogné le visage contre le siège devant lui, a expliqué sa femme, Sarah Dorner, décrivant ses blessures comme des contusions autour des yeux. Madame Dorner, qui a apporté ce que son conjoint lui a dit après l'accident, a expliqué que lorsque quelqu'un a réussi à ouvrir une porte de secours près de l'aile de l'avion, il a pu grimper et glisser de l'aile pour s'échapper de l'appareil. Certains passagers hésitaient, car tout le monde n'est pas en état de sauter d'une aile. Elle a ajouté que Christopher Pal encourageait ceux qui hésitaient à sauter à évacuer plus rapidement parce qu'il y avait une odeur de gaz dans l'air. Sur des photos prises sur place, on pouvait voir l'avion de ligne au sol, entouré de véhicules de secours. Son nez cabossé était relevé vers le ciel. Le poste de pilotage était écrasé jusqu'à la première fenêtre des passagers. À proximité, le camion de pompiers jaune fluo, fortement endommagé, était renversé sur le côté. L'aéroport LaGuardia, LGA, restera fermé jusqu'à lundi après-midi avant de faciliter le travail des enquêteurs. À l'aéroport Montréal-Trudeau, les vols en provenance ou à destination de LGA sont annulés jusqu'à 14 heures. J'ai fait une erreur. Le camion de pompiers traversait la piste alors qu'il se dirigeait vers un avion de la compagnie United Airlines. Le pilote de ce dernier avait signalé une odeur étrange à bord au décollage. Un avion d'Air Canada est immobilisé sur la piste de l'aéroport LaGuardia le lundi 23 mars 2026 après une collision avec un véhicule de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'autorité portuaire de New York, Ryan Murphy, Associated Press. Selon une analyse des enregistrements du contrôle aérien accessible au public réalisée par la presse canadienne, cette odeur a rendu malade certains membres du personnel de bord. Les contrôleurs de LaGuardia ont déployé le camion de pompiers, en plus de mobiliser un camion à escalier au cas où l'avion aurait dû évacuer ses passagers. Dans les instants précédant l'accident avec l'avion d'Air Canada, un contrôleur aérien a autorisé un véhicule à traverser une partie du tarmac, puis à tenter de l'arrêter. « Stop, Truck One, stop » peut-on entendre sur la transmission radio. Le contrôleur a ensuite détourné frénétiquement les autres avions en approche. Après le drame, un membre du personnel a tenté de consoler l'un de ses collègues. « Ce n'était pas beau à voir », dit l'un d'eux. « Je sais, j'ai essayé de les contacter », répond la deuxième personne. « On a dû gérer une urgence tout à l'heure, et j'ai fait une erreur. »« Tu as fait de ton mieux », dit le premier. Le président américain Donald Trump a qualifié la collision mortelle de « terrible ». S'exprimant sur le tarmac de l'aéroport international de Palm Beach, Donald Trump a laissé entendre que l'accident était dû à une erreur humaine. « Terrible, ils ont fait une erreur. C'est un métier dangereux, c'est terrible. » Donald Trump, président des États-Unis. Une question cruciale pour les enquêteurs sera d'examiner la coordination entre les équipes de contrôle de la circulation aérienne et celles de contrôle du trafic au sol à l'aéroport au moment de l'accident, a déclaré Mary Chiavo, ancienne inspectrice générale du département des transports des États-Unis. Je ne sais pas combien de fois l'administration fédérale de l'aviation, FAA, a besoin d'être mise au pied du mur, mais ce genre de situation perdure depuis des années et malheureusement, certaines des catastrophes aériennes les plus terribles de l'histoire se produisent au sol à l'aéroport, a-t-elle indiqué à l'Associated Press. Ligne téléphonique d'urgence. Air Canada a dit avoir pris connaissance d'un incident concernant le vol Air Canada Express 8646 du 22 mars 2026 opéré par Jazz Aviation. Des équipes d'Air Canada et de Jazz Aviation se rendront sur place lundi. Nous savons que vous vous préoccupez de vos proches et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les organismes locaux pour vous fournir les renseignements les plus précis et les plus récents, a assuré le transporteur sur son site web. Air Canada a mis en place une ligne téléphonique d'urgence pour les proches des passagers impliqués. Il s'agit du 1-800-961-7099. De son côté, Jazz Aviation s'est dite profondément attristée par la perte de 2 employés. Nous nous engageons à collaborer avec les autorités compétentes tout au long de l'enquête afin de déterminer ce qui s'est passé. Nous fournirons de plus amples renseignements aussitôt qu'ils auront été vérifiés, a souligné le président de l'entreprise, Doug Clark, dans un communiqué. Pour sa part, le ministre fédéral des Transports, Stephen McKinnon, a offert ses pensées aux familles, aux proches et aux collègues des victimes. Le Canada travaille étroitement avec les autorités américaines alors qu'elles enquêtent sur cet incident et nous suivons la situation de près. La sécurité aérienne demeure notre priorité absolue, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Un avion d'Air Canada et un camion de pompiers de l'autorité portuaire gisent sur le flanc en bordure de la piste de l'aéroport de LaGuardia, lundi 23 mars 2026, après une collision avec un avion d'Air Canada à son atterrissage dimanche soir à New York. Seth Winning, Associated Press. Aéroport fortement fréquenté. Lors de sa conférence de presse, Madame Garcia ne s'est pas avancée davantage sur la chronologie des événements. Elle n'a pas non plus fourni de détails sur les passagers ou les pilotes. Elle a invité les journalistes à poser leurs questions sur les circonstances de la collision au Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis qui a ouvert une enquête. L'avion a été identifié comme un CRJ-900. Il s'agit d'avions régionaux pouvant accueillir entre 50 et 100 passagers. L'avion à fuselage étroit est équipé de 2 moteurs montés à l'arrière du fuselage et d'une queue en forme de T, ce qui lui confère un profil caractéristique. LaGuardia est l'un des principaux aéroports desservant la région de New York. Situé dans l'arrondissement du Queens, il se trouve au bord de la baie de Flushing, à l'est de Manhattan, et dispose de 2 pistes principales qui se croisent. Il est extrêmement fréquenté en raison de sa proximité avec Manhattan et accueille un trafic important composé principalement de vols intérieurs. LaGuardia était le 19e aéroport le plus fréquenté en 2024 parmi plus de 500 aéroports américains avec plus de 16,7 millions de passagers selon une base de données de l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis datant de 2025, avec des informations de l'Associated Press. Onde de choc au Canada. Une collision mortelle entre un avion d'Air Canada et un camion de pompiers à New York a provoqué une onde de choc au Canada et à Montréal, d'où avait décollé l'appareil. Un pompier inspecte les lieux, le lundi 23 mars 2026, où un avion d'Air Canada s'est immobilisé après une collision avec un camion de pompiers de l'autorité portuaire à l'aéroport LaGuardia, dimanche soir à New York, Seth Winning, Associated Press. L'appareil de Jazz Aviation, un transporteur régional opérant sous le nom d'Air Canada Express, a percuté dimanche soir un camion qui traversait la piste de l'aéroport LaGuardia pour intervenir sur un autre incident. Les 2 pilotes ont perdu la vie et des dizaines de personnes ont dû être hospitalisées. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a parlé d'une nouvelle profondément attristante et a transmis ses pensées aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées. Il a ajouté que les autorités canadiennes travaillaient avec leurs homologues américaines pour faire la lumière sur la situation. Le Premier ministre du Québec, François Legault, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il avait appris le drame avec consternation. Mes pensées accompagnent les proches du pilote et du copilote décédé, ainsi que toutes les personnes touchées par cet événement, a-t-il ajouté. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a transmis ses pensées aux victimes et à leurs proches. Les autorités américaines et canadiennes suivent la situation de très près, a-t-elle ajouté. L'Association internationale des pilotes de ligne, ALPA, le syndicat qui représente les pilotes d'Air Canada, a rendu hommage aux deux pilotes qui ont perdu la vie dans l'accident. La disparition de nos deux collègues à bord du vol 8646 est une tragédie profonde. Ces pilotes ont consacré leur carrière au transport sécuritaire des passagers et nos pensées vont à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues de Jazz Aviation en ces moments difficiles, a souligné le président de l'association, le capitaine Jason Ambrosi. Une équipe de l'ALPA portera assistance aux organisations qui enquêtent sur le terrain, dit-on. Chorus Aviation, dont Jazz est l'une de ses filiales, a aussi pleuré la perte de ses collègues. Chorus appuie sans réserve l'équipe de Jazz et veille à lui apporter tout le soutien nécessaire pour qu'elle puisse prendre soin des personnes touchées par cette tragédie, a-t-on ajouté. C'était « Un avion d'Air Canada percute un véhicule d'urgence à New York, les deux pilotes tués. » Un texte de Aaron Souza, Nick Murray, Dean Bennett, Mathieu Paquette et Stéphane Blais, paru le 23 mars 2026 dans la presse canadienne Le Nouvelliste.
Un conseil scientifique pour faire face aux défis urgents des écoles de l'Ouest de Montréal. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 11 février 2026 dans Le Devoir. S'inquiétant de voir le taux de diplomation de ses élèves reculer ces dernières années, comme partout ailleurs au Québec, le Centre de services scolaires CSS Marguerite Bourgeois prend le taureau par les cornes. Il met en place un conseil scientifique dont le mandat sera de trouver des solutions aux besoins urgents que doivent combler les écoles de l'Ouest de la métropole montréalaise, a appris Le Devoir. Dans les dernières années, la pandémie et divers facteurs socio-économiques ont fragilisé la trajectoire de réussite de différents groupes d'élèves vulnérables, incluant ceux ayant un plan d'intervention, ceux issus de l'immigration et les garçons. Dans ce contexte, les taux de diplomation et de qualification de l'ensemble des élèves du Québec se sont effrités, mentionne un document interne du CSS Marguerite Bourgeois que Le Devoir a pu consulter. Le deuxième plus grand CSS de la province a ainsi noté l'an dernier un recul préoccupant du niveau de réussite de ses élèves, en particulier de ceux considérés comme vulnérables. Je vous dirais que, dans les deux dernières années, on a fait face à des défis qui sont vraiment très importants, très complexes. Et je vous dirais qu'à peu près tous nos indicateurs sont en baisse, malgré les efforts qu'on fait, malgré toutes les bonnes pratiques, confie en entrevue le directeur général du CSS Marguerite Bourgeois, Dominique Bertrand, qui constate que l'environnement éducatif montréalais est devenu d'une complexité extrême. Pour cause, il note le fait que les jeunes nés pendant la pandémie ont un niveau de langage plus faible, sont plus à risque d'être violents et ont des habiletés sociales moins développées que la moyenne des enfants. Les vulnérabilités des enfants auparavant, elles s'additionnaient. Maintenant, elles se multiplient. Et ça devient d'une complexité très importante pour les membres de notre personnel, cette situation venant affecter la composition de la classe et donc la charge de travail des enseignants et du personnel professionnel, poursuit M. Bertrand. Davantage de non-francophones et de besoins particuliers. Le CSS Marguerite Bourgeois a par ailleurs relevé dans les dernières années une augmentation du nombre de ses élèves en classe de francisation et en classe d'accueil, ce qui crée une pression importante sur les ressources humaines, mais aussi financières de l'organisation. Actuellement, 64% des élèves du CSS n'ont pas le français comme langue maternelle. Nos élèves viennent d'un peu partout sur la planète et des milliers d'entre eux sont en classe d'accueil, explique le directeur général. Pendant ce temps, le nombre d'élèves à besoins particuliers, lui aussi, ne cesse d'augmenter. Des données fournies au Devoir font état d'une augmentation de 48% du nombre d'élèves fréquentant une classe adaptée depuis 2015. Le nombre d'élèves atteints d'un trouble du spectre de l'autisme et qui nécessite un encadrement particulier a pour sa part doublé en 10 ans dans la centaine d'écoles que compte l'ouest de la métropole. On n'a pas le choix de développer des stratégies pour s'occuper de ces jeunes-là, a ainsi pressé mercredi le directeur général adjoint du CSS, Éric Lauzon. Ce dernier a pris la parole devant une salle remplie de gestionnaires, d'employés et de chercheurs venus assister au lancement du conseil scientifique Marguerite Bourgeois. Cet événement, auquel Le Devoir a pu assister, a eu lieu dans le siège social du CSS, situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Des actions dès septembre 2026. Ce projet compte parmi ses partenaires la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Monique Brodeur, de même que Lucien Maltais, le président-directeur général de l'Institut national d'excellence en éducation, INEE, dont Québec tarde à lancer officiellement les activités. Il y a urgence pour nous d'agir. On veut être capable de soutenir nos milieux demain matin, relève M. Bertrand. Il explique d'ailleurs qu'alors que l'INEE a un rôle de recommandation à l'échelle provinciale, ce conseil aura plutôt comme mandat de trouver des solutions adaptées à la réalité montréalaise et de voir à leur mise en application dans les écoles concernées. Ce conseil scientifique comprendra 7 gestionnaires et employés du CSS Marguerite Bourgeois, ainsi que 2 membres de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, qui siégeront tous sur un comité d'orientation. Ce dernier bénéficiera de l'apport de 10 de chercheurs œuvrant au sein d'universités et d'organisations, dont la mission est déjà de documenter les facteurs pouvant contribuer à la réussite et au bien-être des jeunes, du préscolaire jusqu'au secondaire. Toutes ces personnes n'auront d'ailleurs pas de temps à perdre, puisque le CSS leur donne jusqu'à la relâche scolaire pour cibler leurs priorités. Le conseil scientifique devra ensuite structurer des projets pilotes dans certaines écoles qu'on mettra en action dès le mois de septembre, entrevoit le directeur général adjoint du CSS Marguerite Bourgeois, Éric Lauzon. Car dans la métropole, les besoins urgents sont nombreux et nécessitent donc des actions assez rapides, insiste le gestionnaire. Ce conseil scientifique, dont la vocation sera permanente, a été réalisé à coût nul pour le CSS. C'était un conseil scientifique pour faire face aux défis urgents des écoles de l'Ouest de Montréal, un texte de Zachary Goudreau, paru le 11 février 2026 dans Le Devoir.